podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Barlier.
Bienvenue dans ce nouveau podcast d'Aux Frontières des Séries, et bonjour à tous. Une utopie est une représentation d'une réalité idéale et sans défaut, particulièrement d'une société parfaite. Utopia est une série dont le titre laisse penser qu'on s'approchera de cela, sauf que c'est une série britannique et que les Britanniques sont bien connus pour leur côté décalé et leur humour particulier. Finalement, la série s'interroge sur le concept même d'utopie. La liberté, ma liberté, s'arrête là où commence celle d'autrui. Pour l'utopie, c'est pareil, l'idéal de l'un est peut-être le cauchemar de l'autre. Utopia a été créé par Dennis Kelly et diffusé sur Channel 4 dès janvier 2013. C'est plutôt un écrivain de théâtre, mais il a écrit ou co-écrit deux séries pour la BBC, Spooks et Pulling. Les critiques de Pulling ont souligné le manque de morale de la série. On n'est pas étonné quand on voit Utopia, une série relativement violente et cash, présentant un univers très pessimiste. On suit principalement la fuite de quatre personnages, Becky, Ian, Wilson et Grant, dont le seul point commun est une bande dessinée. Ils croiseront rapidement le chemin de Jessica Hyde. Pourquoi les poursuit-on ? Qu'ont-ils fait de mal ? Qui sont les chasseurs ? Les mystères sont nombreux dans Utopia au point qu'on se demande parfois ce que ça raconte. Vous l'aurez compris, une série bien trempée, à l'identité marquée et qui ne peut pas laisser indifférent. Indifférente, elle l'a sûrement pas été, c'est Sarah Sepulcre. Bonjour.
Bonjour.
Et pour nous accompagner aujourd'hui, Cindy Willem, bonjour.
Bonjour.
Sarah, on entre donc dans Utopia sans préparation et sans être chouchoutée par les scénaristes.
Ah oui, carrément, on se demande où on est tombé. On est dans un magasin de bande dessinée avec un vendeur, deux fidèles clients et on l'apprendra après, un gamin qui est caché, deux types font éruption, sans gêne, ils rentrent, c'est fermé, ils rentrent, froidement, et ils demandent le manuscrit d'Utopia, on lui répond qu'il est vendu, à qui ? Le mec il a tellement peur qu'il leur donne l'adresse directement, et il tue tout le monde, y compris l'enfant. On sort de ce lieu, on voit la devanture du magasin, très graphique. Manifestement, le réalisateur joue sur les cadres, le rideau en fer, etc. On voit qu'il a écrit Doomsday Comics, pour déjà. Hein. Doomsday, c'est la fin du monde, hein, le jour de la fin du monde. Et il y a un type en déguisement de lapin devant ce truc. Voilà, ça c'est Utopia. Après, vous avez le générique et voilà. Donc c'est froid, c'est coloré, c'est des couleurs saturées à mort, c'est absurde avec deux tueurs bizarres, un type en costume impeccable et strict, un type un peu enrobé avec une veste en cuir qui lui va pas du tout et qui fait crac 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 à chaque fois qu'il bouge. Et on comprend pas du tout dans quoi on est, on comprend pas qui sont ces gens.
À tel point qu'il faut quasi deux épisodes pour commencer à avoir une petite idée de vers quoi on se dirige. Et encore.
Et encore, hein. Vraiment et encore. Dans la scène suivante, on voit une fille qui s'appelle Becky et qui parle de ce fameux manuscrit à des éditeurs et donc elle semble l'avoir ou en tout cas l'avoir vu. Tout de suite après, on passe chez Yann qui est un informaticien et qui a un fond d'écran Utopia sur son ordinateur. On comprend vite que c'est une entrée vers un forum sur Utopia, donc la bande dessinée. Bejan, un autre type, déclare sur ce même forum qu'il a l'original d'Utopia et que c'est Utopia partie 2. Et qu'il dit à des gens, j'aimerais vous faire voir ça. Et sur ce forum, il y a Wilson, il y a Grant, il y a Becky et il y a Ian. Et ils se donnent rendez-vous dans un café. Entre-temps, Bejan va se faire tuer par les deux mêmes types qui veulent récupérer le manuscrit. Manuscrit que Grant récupère. En fait, on apprend que Grant n'est pas un trader très riche avec une Porsche dans Londres, mais un petit garçon de 8 ans. Et il s'enfuit. Et donc finalement, les deux tueurs sont à la recherche de tout ce groupe qui s'enfuit sans comprendre ce qui leur arrive. Et nous, on ne comprend pas non plus. Qui sont ces gars qui cherchent à les tuer ? Pourquoi ? La BD, vraiment ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui est cette Jessica Hyde dont ils ne cessent de parler ?
C'est affolant, ça. Il n'y a que ça qui revient.
Ils tuent tout le monde en demandant où est Jessica Hyde. Et personne ne connaît Jessica Hyde. Et ils connaissent tout le monde en étant persuadés qu'ils doivent connaître Jessica Hyde. Et on se demande un peu quoi. Si les héros ne savent pas ce qui se passe, nous non plus, on est clairement plongés dans la même situation que ces personnages qui sont happés dans un univers, dans une machine qu'ils ne comprennent pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a dans cette BD ? Officiellement, nous on sait que ce sont les délires d'un paranoïaque enfermé dans un hôpital psychiatrique avec une histoire de lapin quelque part, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un lapin Doomsday Comics, j'en sais rien. Ça nous parle des hommes et de la destruction possible de la planète, d'une maladie, le syndrome de Deal, mais on fait pas du tout les liens entre tout ça, on voit pas du tout ce qu'une BD vient foutre là-dedans et pourquoi on tue les gens là-dessus. Et donc finalement, ce qui va se tisser autour de ces personnages les dépasse complètement. La bande dessinée est en fait une porte d'entrée vers un projet démentiel, secret, démoniaque, plein d'argent, un système qui broie les gens qui y participent et... On va très vite comprendre que ces gens ont beaucoup de moyens, que les deux tueurs ont toujours une longueur d'avance sur tout le monde, sont super informés et ont des moyens sans limite. À la fin de ce premier épisode, Grant est poursuivi, Bejan est mort, Yann est arrêté pour pédophilie, donc ces gens ont même la capacité de faire des fausses accusations. Becky a aussi été arrêtée pour un lien avec de la pornographie infantile, et Wilson, qui fait des recherches sur le dossier médical de Bejan et découvre que, contrairement à ce que la police dit, il n'était pas du tout dépressif et qu'il n'a donc pas pu se suicider. Les gens, cette organisation, je ne sais pas très bien comment dire, découvre cela, va le retrouver et le torturer.
Chilies, sand, bleach, a spoon.
Is this about utopia? I didn't even know Bejan.
I'm going to rub chilies into your eyes, then sand, then bleach. Then I'm going to use the spoon. Do you know what I do with the spoon?
Where is Jessica Hyde?
I don't know who that is.
Can you still speak?
Wilson?
Please. I got sand now, Wilson.
Where is Jessica Hyde?
I got the bleach now.
Where is Jessica Hyde?
I've got her address. I can give you her address. Let me. No, no, no!
I've got the spoon now, Wilson. Calm, 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 calm down. My mate's gonna ask you a question.
Where is Jessica Hyde?
She's dead. She died. There was an accident. She died. No. No.
He doesn't know anything.
Alors Alex, qu'est-ce que tu penses de cette petite scène de torture ?
Je préfère ne pas m'exprimer sur le sujet, c'est encore trop traumatisant pour
voilà,
moi.
Voilà, c'est ça.
Je dois avouer que c'est une scène que j'ai découverte en plus sur grand écran au festival Série saison 2 à Fontainebleau. Que je suis arrivé dans la salle, je suis tombé sur cette scène et ça m'a un peu déstabilisé. Depuis, j'en garde des souvenirs un peu humides.
Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais... Le monsieur se fait torturer à travers les yeux, c'est-à-dire que c'est ses yeux qu'on attaque.
C'est d'ailleurs ce que le gars qui torture explique. Chaque tortionnaire a la partie du corps qu'il préfère et lui, malheureusement, c'est les yeux.
Voilà, malheureusement pour la personne qu'il torture. C'est une scène de torture qui est cachée en même temps, on ne voit pas trop. Donc cette série a cette capacité à nous horrifier sans nécessairement montrer la torture en tant que telle. C'est régulier quand on regarde finalement, c'est plus suggéré que montré, mais ce qui est suggéré est affreux, abominable. Et c'est une série dont, qui sointe la violence par tous les pores de sa peau, si on peut parler de peau, pour une série.
On sait que la série est assez violente. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que la série reprend parfois certains faits divers qui ont été réels. Et du coup, on se pose la question, si point de vue de la réception, est-ce que ça n'a pas soulevé justement certaines critiques dues à cela ?
C'est une série qui a été accusée. Et l'équivalent du CSA a reçu énormément de plaintes par rapport à cette série, et notamment sur les questions de violence. C'est vrai qu'on nous épargne rien. Ces deux tueurs tuent tout le monde de sang-froid, de manière très clinique. Il y a des scènes de torture, des scènes de baston et une amoralité crasse dans toute cette série.
Même si à la fin de la saison 1, on comprendra pourquoi l'un des tueurs tue de cette manière.
Oui, mais ça j'en parle pas. Je préfère ne rien dire. J'essaie de spoiler le moins possible.
Ça explique un peu.
C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vous parle quasiment pas de la saison 2, parce que moi j'ai vu les deux, mais bon voilà. Cette série, tu as raison, est inspirée et finalement nous parle énormément du monde tel qu'il est aujourd'hui. On nous parle d'épidémie de grippe, c'est des choses qu'on a connues il n'y a pas très très longtemps, de grippe russe, etc. On nous parle d'une maladie créée par l'homme ou possiblement créée par l'homme, ça fait quand même très fort penser à toutes les discussions et les théories du complot autour du sida par exemple. On nous parle du cynisme des entreprises pharmaceutiques, si vous regardez la presse, ben on en parle souvent aussi. On parle d'un consortium qui serait au-dessus des lois, on nous parle de problèmes écologiques, de fin des ressources naturelles de la Terre, etc., etc., qui sont des thèmes qui, aujourd'hui, sont connectés à notre réalité, donc elle paraît effectivement très connectée à la réalité.
Et en plus, à côté de ça, la théorie du complot d'X-Files, à côté, c'est de la gnognotte, quoi.
Ah,
c'est...
oui, on est bien d'accord.
C'en est effrayant, mais le problème c'est qu'ici ça a l'air tellement réaliste que ben, on a l'impression quand on va se coucher qu'on va chercher après les micros qui sont planqués dans la chambre.
X-Files joue sur des extraterrestres, a priori on peut encore se dire à l'heure actuelle que ben, c'est de la science-fiction. Ici ça joue que sur des trucs où on peut se dire « Ah ben merde, j'entends ça aux news, et j'entends ça aux news, et j'entends ça aux news ». Il y a eu un effet en plus par rapport à la réalité aux faits divers, c'est que la série a été diffusée, il y a une tuerie dans une école dans cette série, et ça a été diffusé quasiment au moment de la tuerie de Sandy Hook aux USA. Et forcément, les gens ont fait un lien et ont porté plainte en disant qu'ils n'auraient pas dû passer cet épisode-là. C'est une coïncidence, en fait. L'épisode était écrit et tourné depuis déjà très longtemps. Et il est vrai que la chaîne s'est posé la question. Est-ce qu'on le diffuse ou pas? Et ils ont choisi de le diffuser en disant « Cette série n'est pas inspirée de faits réels. » On s'est posé la question, mais toutes les scènes de violence et toute la violence présente dans cette série est scénaristiquement obligatoire si on veut arriver à certaines choses. Et en plus, cette série est diffusée tard et on sait à l'avance qu'on regarde quelque chose de cet ordre-là. Ce qui fait qu'effectivement, ça peut être difficile comme réception et comme quand on est en train de regarder les choses, de voir ces éléments-là, mais voilà.
La série s'inspire de faits, entre guillemets, réels, mais à côté de ça, je trouve que c'est un peu paradoxal parce que les gens tuent d'autres personnes pour une BD au final, donc on est un peu entre les deux.
En fait, on se rend compte, cette BD est vraiment une porte d'entrée et quelque chose de codé qui permet de faire comprendre et de faire des liens entre tous ces éléments. De nouveau, je vous en parle pas, sinon ça sert à rien de regarder la série. En fait, j'ai peur que si je commence même à vous donner le début de certaines intrigues, ça soit beaucoup trop au niveau du spoiler. Donc je préfère ne rien vous en dire. Mais c'est vrai en plus que de toute façon, cette série a offert le bâton pour l'abattre parce qu'il y a beaucoup de choses qui déplaisent dans cette série. Il y a le langage grossier, il y a de la violence et des scènes de torture, je vous en ai dit. Il y a des scènes de sexe qui sont parfois cash. Une des plaintes, par exemple, que l'Ofcom a reçues, donc l'équivalent du CSA, c'est des scènes de sexe dans lesquelles de jeunes acteurs n'étaient évidemment pas impliqués, mais étaient présents. C'est-à-dire qu'effectivement, ils dorment dans une pièce dans laquelle deux sont en train de se sauter dessus. Et puis, ben, on peut se dire que l'acteur enfant fait semblant de dormir. Donc, il y a eu des plaintes de cet ordre-là, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur une chaîne network américaine et donc on nous montre des choses qui sont parfois très très cash. Maintenant, à leur décharge, c'est vrai qu'ils se sont bien renseignés sur les règles de ce qu'ils pouvaient faire et pas faire et ils s'arrangent toujours pour être dans le légal, limite, mais légal. Il y a effectivement des avertissements quant à la violence, au côté graphique et au côté amoral de l'histoire et c'est diffusé à 22h. Donc effectivement, maintenant, il est aussi parfois de la responsabilité des gens de se dire est-ce que je regarde ou pas cette série et est-ce que je la regarde avec des gens qui ont tel âge ou tel âge ou tel âge. À mon avis, c'est une question qu'il faut se poser. Et je suis assez d'accord avec la défense de la chaîne qui est de dire que la violence est justifiée scénaristiquement parlant. Quand on raconte, à mon avis, une histoire comme ça, on ne peut pas faire autrement. Il faut qu'elle soit violente aussi pour les gens qui regardent. Et moi, la violence qui me pèse le plus dans cette série, c'est pas encore la violence visuelle, c'est vraiment la moralité de certains personnages et la violence psychologique de cette histoire qu'on est en train de nous raconter. C'est ça qui me marque finalement le plus, mais qui fait aussi réfléchir.
Parce que c'est une série très violente, mais on n'en est quand même pas à du torture porn, c'est-à-dire qu'on n'est pas ici pour faire mal aux gens, pour le plaisir de voir de la torture, d'autant qu'en plus on la voit pas. Tout est la plupart du temps très très suggéré. On sait ce qui va se passer, mais ça se passe toujours hors cadre.
Oui.
Et en plus, cette violence est effectivement justifiée par l'histoire que la série raconte.
Et puis, moi je trouve que les personnages les plus violents sont pas toujours ceux qui sont violents en acte. Monsieur Rabbit, vous verrez vous-même qui c'est, sa manière de justifier ses actions est extrêmement violente quand on réfléchit, c'est vraiment très inhumain. Mais ce personnage-là ne tue personne, ne bastonne personne en tant que tel. Pourquoi regarder une série pareille ? Je vais vous parler de plusieurs éléments, mais je vais commencer par ces personnages que je trouve vraiment très intéressants. S'il peut parfois y avoir un attachement pour certains d'entre eux, je pense qu'on n'est pas du tout dans les mécanismes d'identification habituels. Donc on regarde vraiment ces personnages pour ce qu'ils sont, des personnages, et on est intrigué par ce qui leur arrive et leur manière parfois de fonctionner. Ils ont des trucs très drôles aussi, hein, parce que je disais tout à l'heure qu'on est dans une série anglaise, donc piétré et sa démarche abominable, vous comprendrez si vous regardez, c'est l'un des deux tueurs. Son associé qui est d'une douceur abominable, c'est drôle de dire une douceur abominable, mais quand il torture, il est d'une douceur abominable.
On dirait qu'il va câliner la personne.
Oui.
C'est effarant.
Jessica Hyde qui se balade toujours avec un mini-sac. On ne sait pas tout ce qu'elle arrive à foutre dans ce mini-sac, donc c'est parfois des côtés un peu décalés.
Parce qu'on finit par savoir qui est Jessica Hyde.
On finit évidemment par savoir. La naïveté de Doc Dale qui est un associé du ministre, où on se dit c'est pas possible. Eh bien si. Le côté très paranoïaque, débile de Wilson, qui adhère à toutes les théories du complot, qui se rend invisible sur Internet et ça fait rigoler, parce qu'on se rend compte que peut-être qu'un des gars les plus visibles de cette série, ça doit être lui. Et puis, le goût vestimentaire affreux de Becky, par exemple. Mais Becky, qui est un personnage intéressant, parce que c'est elle qui a le plus souvent des éclairs de lucidité. Et elle a compris beaucoup de choses avant tout le monde. Dans l'épisode pilote, elle fait déjà des connexions entre certaines choses.
I've got to tell you some stuff. You better sit. I think this is about Utopia and Mark Dane, the man that wrote it. Last year, I spoke to a nurse who worked at Shenley when Mark Dane was there. She said he was a model patient, quiet, and they thought he must have been some kind of geneticist, but by the time they got to him, his brain was fried. The only time he was ever trouble was when they tried to give him a new brand of drug, and he went psycho, like hospitalized 3 men. The drugs were made by a company called Covart.
So?
In 2008, a researcher at Berkeley called Norton wrote a paper into a new disease called Diehl syndrome. It's like Huntington's. It's a neurodegenerative disorder where the entire body just shuts down, and it's hereditary. But what Norton discovered is that Diehl's has no genetic history whatsoever. It's not present in parents, relatives, nothing. It's like it just popped into existence in 1986.
Is that possible?
No, not really, no. So he thought that Diehl's must have been a man-made disease. So he looked into the patient's backgrounds for a common denominator. Nothing. Except for one thing. They'd all, at some point, worked for Covart.
Why do you know all this?
Alors vous comprenez bien qu'elle fait clairement le lien entre Mark Dane, qui est celui qui a écrit cette BD. Il a dessiné dans la bande dessinée le syndrome de Dale. Et la bande dessinée date de 1985 et le syndrome de Dale apparaît en 86. Forcément, c'est très intriguant quand on voit ça. Et elle fait le lien, effectivement, entre cette maladie qui serait inventée par l'homme, cette bande dessinée qui dirait peut-être des choses qu'elle ne doit pas dire, et cette partie 2 qui n'a jamais été publiée et qui peut-être dévoilerait des choses que ce consortium, ces gens ne veulent pas qu'ils sortent. Elle parle aussi d'une firme pharmaceutique qui s'appelle Corvat. Et à ce moment-là, dans l'épisode pilote, on sait déjà que cette entreprise pharmaceutique est en lien avec le gouvernement et le ministre de la Santé, parce qu'il y a possiblement une épidémie de grippe russe qui se développe. Donc on voit qu'il y a effectivement des choses qui se lient. Je peux vous dire que là, je vous ai un peu spoilé, mais bon, ça sort de l'épisode 1, mais que ça, c'est la partie immergée de l'iceberg.
Et du point de vue des personnages, Sarah, quels sont les personnages forts ?
Ça, j'aime bien, parce que c'est souvent des filles. Becky, elle a l'air de rien. Ça a l'air d'être une espèce de patate comme ça, mais en fait, non, elle n'est pas si bête que ça. Jessica, c'est la survivante qui, on l'apprendra petit à petit, survit depuis pas mal d'années déjà face à ces gens. elle sait tout faire. Elle sait principalement être en fuite et être en cavale et pas se faire prendre.
Et elle a surtout ce visage toujours excessivement fermé. Il n'y a pas d'expression qui sorte du visage de Jessica Hyde. C'est assez surprenant.
Et puis Romy Lehner, alors vous comprendrez, je ne vous dis absolument rien sur elle, est aussi un personnage qui est déterminant. Et finalement, on se demande ce que les garçons viennent foutre là-dedans. Ian et Wilson, ils ont l'air parfois de plus subir les choses et de se faire tirer par le nez.
Les Augustes que les clowns blancs.
Ouais.
On a l'impression qu'on se moque plus d'eux, toutes les gaffes que Wilson peut faire. Et Ian est parfois très gaffeur aussi.
Donc finalement, moi, cette série, elle me parle assez bien au niveau des personnages. Tu parlais justement du côté un peu et du registre comique. Moi, je trouve aussi qu'un des très gros points forts de cette série, c'est ça, c'est l'humour anglais. Avec parfois un humour tellement absurde, dans ce monde violent, il y a des choses absurdes et ça rajoute encore à l'absurde finalement.
Heureusement qu'il y a cet humour, parce que sinon la série serait totalement irregardable.
Ouais. Et c'est des trucs qu'il n'y a que les Anglais qui font. Je me souviens dans un épisode où il y a deux personnes qui vont faire l'amour ensemble et où on se dévêt très rapidement, vous voyez, et où la demoiselle tire sur la chemise du monsieur, sauf qu'elle n'a pas défait les boutons du col ni les boutons des manches. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'enlever une chemise sans enlever les boutons, mais ça donne un monsieur qui est pris dans sa chemise, et ça dure super longtemps parce que forcément, pour pouvoir aller détacher des boutons d'une chemise qui est retournée, c'est affreux, surtout qu'on a les mains dans la chemise. Et cette scène me fait hurler de rire. Il n'y a que les Anglais qui peuvent faire des trucs comme ça. Et cette série est parsemée de ce type d'humour-là, tout le temps, avec parfois cette impression qu'effectivement ça donne de l'air, et avec parfois l'impression que ça rajoute de l'absurde à l'absurde. Il y a juste deux niveaux d'absurde, du comique absurde et puis de la violence absurde, et on ne comprend pas toujours très très bien, mais en tout cas c'est très très bien fait.
Un humour anglais, mais j'ai l'impression que tout à l'heure, quand tu nous parlais du graphisme, que visuellement parlant aussi, on s'éloigne très fort du modèle américain classique.
Alors là, j'ai jamais vu ça.
Quelle claque, hein.
J'ai jamais
c'est
vu
incroyable.
Ça. J'ai essayé de réfléchir à des séries qui, si parfois dans Twin Peaks, je parle souvent de cet exemple où on parle d'un petit point sur le plafond pour arriver. Mais ici, visuellement parlant, c'est tout le temps comme ça. Alors, d'abord, les couleurs sont hyper saturées, donc on est tout le temps dans un univers où le ciel est bleu turquoise, où le rouge est rouge vif, et ça donne une impression très étrange. Mais c'est une série aussi qui joue beaucoup sur le graphisme. Je me souviens de scènes où on joue sur les verticales des buildings, par exemple, sur les éléments du décor et ce genre de choses-là, avec des lignes. Vous voyez ces rues anglaises avec toutes les maisons les mêmes. On joue sur les lignes de fuite qu'il y a dans ces rues, par exemple.
Moi, personnellement, quand j'ai vu la série, le cadrage, les formes, les lignes, les couleurs, ça m'a fait penser à un western.
Oui, c'est pas faux. Il y a aussi un vrai sens de l'image des paysages dans cette série. On a des étendues de champs qui sont magnifiquement filmées.
Et on n'a pas peur de les laisser montrer pendant 30, 40, 50 secondes. Oui. Même si ça n'a aucun intérêt pour l'histoire, c'est vraiment pour la beauté de la scène.
Et je pense que ça n'a pas d'intérêt et en même temps, ça en a parce que ces grands espaces, par exemple, ou ces espaces graphiques, ça pourrait être là aussi comme l'humour des moments où on respire un peu. Et en fait, ils en deviennent oppressants. Par leur côté presque irréel, par leur côté sursaturé, par les couleurs jaunes, vertes, etc., vives qui peuvent en ressortir, finalement, des fois, ça nous donne un peu une idée de cadre qui peut peser sur ces personnages. On est presque dans les cases d'une BD quand on y réfléchit. Mais c'est vraiment super bien fait. Et il joue aussi excellemment bien sur... Quand il y a des moments de ralenti, vous pouvez être attentif, parce que c'est vraiment des moments qui visuellement sont intéressants. Et ils ont l'art, dans ces moments-là, parfois, de jouer sur une scène qui est au ralenti, monter en parallèle avec une autre scène qui est tout à fait normale, et on se rend compte de liens qu'on peut faire entre des passages, etc. C'est vraiment, au niveau visuel, c'est vraiment un grand plaisir. C'est les scènes d'ouverture de Breaking Bad, mais durant tout l'épisode. Et ça, c'est... Moi, je ne me souviens pas d'avoir vu ça ailleurs. Et je trouve que c'est vraiment excellemment bien fait. C'est très clairement un point très positif, à mon avis, de cette série. Un autre aussi, c'est qu'il n'y a pas de bons sentiments. Et ça, moi, ça, je trouve, ça fait du bien. C'est-à-dire que ni du côté des bons, ni du côté des méchants, il y a de bons sentiments. Il n'y a pas de rapport d'amitié, c'est du cash, on est là pour sauver sa peau. N'empêche que de temps en temps, les personnages sont proches les uns des autres, ça je dis pas, mais même deux personnages amoureux peuvent se dire les pires vacheries qui soient, et on sent qu'on n'est pas dans un monde à la Dawson où il n'y a pas de happy ending à la mentaliste et ce genre de choses-là. Et ça, ça fait aussi, je trouve, un peu du bien de temps en temps dans les séries. Donc vous l'aurez entendu, moi je suis assez preneuse de cette série. Je ne la montrerai pas à mon enfant de 10 ans, évidemment. Il faut la regarder aussi pour ce qu'elle est. Et surtout, il faut prendre le temps de regarder les premiers épisodes en acceptant de ne pas comprendre ce qui se passe. Il faut vraiment au moins aller jusqu'à la fin de la première saison, à mon avis. Est-ce que première, deuxième ? Je trouve que la deuxième saison, au niveau des intrigues, est parfois un peu plus simple. Et donc, bon, on a été confronté à quelque chose de tellement écrit, de tellement complexe dans la première saison, que ça en est dommage, mais ça garde quand même un très très bon niveau. Et surtout, la seconde saison, au niveau visuel, ne démérite absolument pas et permet peut-être parfois de comprendre aussi certains personnages et leur comportement à la saison 1. Donc je serais vous, je la regarderais.
Voilà, je crois que c'est la conclusion de ce dossier. On vous invite donc à découvrir Utopia dès que cela vous sera possible de le faire. Et on se retrouve très très prochainement pour un nouveau dossier de Frontières des séries.
Retrouvez aux Frontières des séries sur le web www.afds.tv.